L'actu des Grands Causses.
L'émission du Parc naturel régional.
Tiens, c'est bientôt Noël. Et qu'on croit ou non au Père Noël, on aime bien encore avoir son petit sapin à la maison, surtout si on a des enfants ou des petits-enfants. Alors on prend sa tronçonneuse, par une belle après-midi de préférence, ça fait une balade, et on va couper son petit arbre. Et oui, dans l'actu du parc cette semaine, Jérôme Bussière va vous parler du sapin de Noël, et bien au-delà bien sûr des arbres des Grands Causses. Au fait, on a le droit d'aller couper un arbre comme ça ?
Alors vous avez le droit d'aller couper un pin, la plupart du temps ce sera un pin sylvestre hein, sur le territoire causse, à la condition d'avoir l'autorisation du propriétaire, donc le propriétaire privé si c'est une parcelle privée, l'Office national des forêts si c'est des forêts publiques, forêts d'État ou forêts communales. Ce qu'on peut rajouter sur les sapins de Noël, hein, aujourd'hui le sapin de Noël naturel, celui qu'on trouve en supermarché ou en jardinerie, ce sont des sapins qui sont cultivés, hein, ça s'approche plus de l'agriculture que de la sylviculture. Un sapin aujourd'hui qu'on trouve en magasin à 8 ou 10 ans, il a fait l'objet de tailles, d'entretien. Donc acheter un sapin de Noël, c'est pas déforester. Et en termes de bilan carbone, si je peux dire, c'est plus intéressant d'acheter un sapin naturel qu'un sapin artificiel, qui est produit à partir de produits dérivés du pétrole. Et selon certaines enquêtes, un sapin artificiel est gardé 6 ans, alors qu'il faudrait 20 ans pour un équivalent à un sapin naturel, il faudrait le garder 20 ans en termes de bilan carbone.
Les sapins de Noël ne sont quasiment jamais des sapins.
Traditionnellement, le sapin de Noël, c'était l'épicéa, qui avait l'avantage d'avoir la bonne odeur de résine qu'on connaît, mais qui avait le désavantage de perdre ses aiguilles. Donc aujourd'hui, on trouve sur le marché principalement le sapin de Nordman, qui est bien un sapin, mais son aire d'origine, c'est le Caucase. Aujourd'hui, il est cultivé en France, donc quand on privilégie les circuits courts, un quart de la production française vient, petit clin d'œil, à un autre parc du Morvan. Mais on peut en trouver partout en France. Un des producteurs, je crois, le plus proche, se trouve sur les monts de la Cône. Donc le sapin de Norman, aujourd'hui, représente 70% des parts de marché. Son grand avantage, c'est qu'il est régulier, robuste et qu'il ne perd pas ses aiguilles. Donc se développe un petit peu le sapin noble ou nobilis, qu'on peut trouver aussi, mais qui est plus cher, parce qu'il demande plus d'entretien à la culture. L'avantage qu'il a, c'est qu'on retrouve cette odeur de résine qu'avait l'épicéa.
Voilà pour ce qui est du sapin de Noël, mais j'ai oublié de présenter convenablement mon interlocuteur, Jérôme Bussière.
Je suis l'animateur d'une charte forestière de territoire, donc qui est un document qui donne des objectifs et des orientations en matière de gestion de la forêt, de préservation de la forêt, mais aussi de valorisation du bois dans la filière, donc filière, soit la filière bois énergie, soit la filière bois matériaux.
Vous l'animez auprès de qui ? Des particuliers ? Des maires ?
Au niveau du parc, on anime principalement cette charte autour des acteurs de la filière, donc les acteurs socio-économiques, et les collectivités.
On en a profité pour faire un état des lieux de la forêt du parc naturel régional des Grands Causses.
Sur le parc, la superficie de la forêt équivaut à 150 000 hectares à peu près, ce qui représente 46% de la surface du parc, ce qui est relativement important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une forêt assez jeune, hein, qui est en progression, puisqu'on est passé de 1994 à 2008 de 132 000 hectares à 150 000 hectares, donc une progression en 14 ans de 14%.
C'est lié au fait que c'est moins pâturé qu'avant, c'est ça ?
C'est lié essentiellement, oui, à une déprise, donc des terres les plus pauvres. C'est pour ça aussi que c'est une forêt jeune, puisqu'on a essentiellement soit des taillis, qui étaient exploités pour le bois de chauffage autrefois, soit des accrus forestiers sur les parcours.
C'est quoi des accrus forestiers ?
Les accrus forestiers sont les arbres adultes qui essaiment, et donc on a des jeunes arbres qui poussent sur les parcours.
Qu'est-ce qu'on trouve comme espèce dans ces forêts des Grands Causses ?
Principalement, à 70%, sont des feuillus, principalement le chêne, et de manière beaucoup plus restreinte, le châtaignier et le hêtre. Le châtaignier et hêtre, ça représente 2,5% chacun, 5% des forêts feuillues. On a à peu près 25-26% de forêts résineuses sur le territoire du parc. Dans ces 26%, 8% de pins sylvestres, qui est une essence naturelle, hein, celle qui progresse principalement sur les causses. Le reste étant des plantations de conifères, issues de divers programmes de plantation qui ont débuté après la Seconde Guerre mondiale.
Des plantations qui sont faites par qui ?
Par l'Office national des forêts, dans les forêts publiques, qu'elles soient propriété de l'État ou de la commune, et certains propriétaires forestiers privés.
Est-ce qu'un propriétaire privé peut faire ce qu'il veut de sa forêt ?
Non, un propriétaire privé, à partir du moment où il a plus de 25 hectares de forêt, est tenu de rédiger un plan simple de gestion, qui est un document qui va donner ses orientations de gestion, c'est-à-dire les travaux qu'il va réaliser dans sa forêt, de manière durable, c'est-à-dire qui doit préserver le caractère forestier de ses forêts. En dessous de cette superficie, on encourage les propriétaires à signer un code de bonne pratique pour préserver ce caractère forestier, le devenir des arbres et la biodiversité liée à la forêt.
L'actu du parc des Grands Causses.
Mais quels sont les enjeux de cette forêt du parc des Grands Causses qui vaille qu'on établisse une charte ?
Il y a plusieurs enjeux qui étaient pointés dans la charte forestière de territoire. Le premier était la préservation des forêts remarquables. La forêt aveyronnaise étant assez jeune et ayant été beaucoup exploitée, on retrouve assez peu d'îlots de vieilles forêts, de forêts anciennes, qui est susceptible d'abriter le plus la biodiversité. D'autres objectifs sur plutôt la gestion forestière, un enjeu a été pointé qui mêle l'exploitation de la forêt et le pâturage, qui est le sylvopastoralisme. Donc combiner à la fois la production de fourrage, que ce soit de l'herbe, des feuilles ou des fruits, glands, châtaignes, avec la production de bois, et si possible, dans le meilleur des cas, de bois d'œuvre.
Est-ce qu'il y a un risque que la forêt reprenne le dessus sur le territoire des Grands Causses suite à la déprise agricole ?
Effectivement, la forêt est en progression, mais d'un autre côté, il y a aussi une préoccupation de gérer les paysages, à gérer les milieux, gérer mieux les ressources. Donc, c'est aussi reconquérir de l'espace, redéployer du pâturage. Et il y a une volonté aussi de mieux exploiter la forêt pour valoriser les ressources locales et faire vivre un réseau d'artisans. On a une quarantaine d'entreprises sur le territoire du parc qui vivent de la filière bois, donc première transformation, les scieries, et deuxième transformation, les constructeurs de maisons bois, les menuisiers, charpentiers, etc. Alors
récemment, il y a eu des coupes par ERDF, par exemple, enfin par une filiale de ERDF pour les lignes qui passent. Donc ça a fait des grosses coupes. Il y a aussi eu des histoires autour de la Bouissière de Potensac, par exemple. Vous, quel est votre rôle au parc par rapport à ça ? À des moments, vous avez été interpellé dans la presse locale sur ces questions-là ?
En théorie, ERDF doit solliciter l'autorisation du propriétaire pour réaliser les travaux. D'un autre côté, le propriétaire a des obligations vis-à-vis de la protection des lignes. Donc aujourd'hui, nous, on se rapproche de ERDF, des gestionnaires de lignes, pour pouvoir leur apporter de l'information sur les éléments du patrimoine qui sont sensibles, sur lesquels ils doivent faire attention.
Comme une buissière ancienne, par exemple.
Une buissière, ça peut être des zones humides, des lavognes, des sites d'inédification un peu sensibles.
La forêt de notre parc est exploitée, mais à quelle fin ? Réponse de Jérôme Bussière.
Les usages nobles du bois, qui est le bois d'œuvre, pour la construction, pour l'ameublement, aujourd'hui, provient principalement des forêts résineuses, puisqu'on exploite à peu près, sur le territoire du parc, la moitié de volume en feuillus, la moitié en résineux, alors que les résineux ne représentent qu'un quart de la surface des forêts.
Et en bois de chauffage ?
Le bois de chauffage est une filière un petit peu à part, mais relativement importante. C'est une façon de valoriser les bois un petit peu tordus, branchus, qui n'ont pas forcément une destination à rentrer dans une filière bois classique.
C'est-à-dire pour faire des poutres, par exemple.
Voilà, faire des poutres, faire des meubles. Donc à côté de la filière bois-bûche, les connexes de l'exploitation forestière ou du sillage peuvent être valorisés soit en bois d'industrie, ça peut être pour faire des panneaux, de la pâte à papier, ou en bois énergie. C'est-à-dire qu'on fait de la plaquette forestière, on broie le bois et c'est valorisé dans des chaudières automatiques au bois.
L'actu du parc des Grands Causses, une émission réalisée par Radio Larzac et Radio Sainte-Afrique. Retrouvez l'actu du parc des Grands Causses tous les samedis dans le Midi Libre.